Merci. 22h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. Des dizaines de personnes tuées ce mardi par des tirs israéliens, à nouveau à proximité d'un centre d'aide humanitaire. L'ONU dénonce des crimes de guerre. L'UNRWA, l'Office de l'ONU pour les Palestiniens, juge que ces distributions vont à l'inverse de tout principe humanitaire fondamental. Nous entendrons la porte-parole de l'UNRWA au début de ce journal. Lee Jae-myung remporte la présidentielle en Corée du Sud. Le candidat de centre-gauche l'a emporté avec 48% des voix. Il a promis de ne pas décevoir les attentes du peuple après la destitution de son prédécesseur qui avait tenté d'instaurer la loi martiale. Et puis le pont de Crimée à nouveau visé par l'Ukraine. Kiev affirme avoir utilisé plus d'une tonne d'explosifs pour endommager ce pont qui relie la péninsule à la Russie. Nous verrons cela avec Emmanuel Chaz.
RFI.
À Gaza, la défense civile fait état de 27 personnes tuées aujourd'hui par des tirs israéliens. Et ça s'est passé près d'un centre d'aide humanitaire dans le sud du territoire. Volker Türk, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, dénonce des crimes de guerre alors que 31 personnes avaient été tuées il y a deux jours au même endroit, dans les mêmes circonstances. La distribution d'aide est organisée par la fondation GHF, financée par l'État hébreu et les États-Unis, est fortement décriée pour ses procédés et sa neutralité. L'UNRWA, l'Office de l'ONU pour les Palestiniens, juge ainsi que ces distributions vont à l'inverse de tout principe humanitaire fondamental. Tamara Al-Rifai, la porte-parole de l'UNRWA.
C'est un système qui ne respecte pas les principes humanitaires d'indépendance, parce que c'est un système qui est mis en place par le gouvernement d'Israël et le gouvernement des États-Unis. Donc il n'y a aucune indépendance. C'est un système qui ne respecte pas tous les Gazaouis, parce qu'il exclut les personnes qui ne peuvent pas arriver, mais surtout d'un point de vue sécuritaire. C'est un système qui cherche à fournir de la nourriture seulement à ceux qui passent certains tests sécuritaire. Donc les Gazaouis doivent donner leur carte d'identité et s'ils n'y sont pas demandés par le gouvernement israélien, s'ils ne se font pas arrêter, ils méritent, entre guillemets, l'aide humanitaire. Tout est faux dans ce système.
Tamara Al-Rifai, la porte-parole de l'UNRWA, jointe par Pierre-Olivier. Triomphe du candidat de centre-gauche lors de la présidentielle en Corée du Sud. Lee Jae-myung avait perdu la dernière présidentielle face à Yoon Suk-yeol, mais depuis, son ancien adversaire, l'ancien président, a été destitué. Il avait tenté d'instaurer la loi martiale, ce qui permet ce mardi à Lee Jae-myung de prendre sa revanche, puisque selon les résultats officiels, 90% des bulletins ont été dépouillés. Il a été élu avec 48% des voix contre 42% pour son rival. Lee Jae-myung, qui est aussi le chef du Parti démocrate, promet de ne pas décevoir les attentes du peuple, sachant que les Sud-Coréens se sont déplacés massivement pour ce scrutin. L'ONU s'inquiète d'une hausse alarmante des expulsions de familles afghanes par l'Iran. Téhéran a expulsé deux fois plus de familles afghanes en mai que le mois d'avant, selon les chiffres de l'ONU. Et cela intervient alors que le Pakistan, son voisin, a lancé une campagne d'expulsion massive d'Afghans. Ces réfugiés ont d'abord fui 40 ans de guerre, puis le retour des talibans ou le chômage. Mais l'Iran les pousse à partir, il les accuse de faire monter le chômage, justement, les prix ou encore la criminalité. RFI, 23h03 à Kiev. L'Ukraine revendique une attaque contre le pont de Crimée, pont qui relie la Crimée à la Russie, construit après l'annexion de la péninsule par Moscou en 2014. Le SBU, le service de sécurité d'Ukraine, affirme avoir utilisé plus d'une tonne d'explosifs. Emmanuel Chaz.
Ce n'est pas la première fois que les forces ukrainiennes tentent de détruire le pont de Crimée, mais bien la troisième depuis 2022, cette fois avec plus d'une tonne d'explosifs qui a détonné dans les infrastructures sous-marines du pont, affirme le renseignement ukrainien. Et l'enjeu pour l'Ukraine est de taille. Ce pont permet l'acheminement de troupes, d'équipements lourds et de munitions de la Russie sur la péninsule de Crimée, puis tout au long de la ligne de front sur la zone occupée dans le sud et l'est de l'Ukraine. Neutraliser le pont de Crimée permettrait donc d'empêcher cet acheminement et pousserait les troupes russes dans l'est et dans le sud de l'Ukraine à diminuer leurs attaques contre l'armée ukrainienne. Alors que la Russie qualifie cet acte de terroriste, Kiev assure avoir opéré selon les lois de la guerre sans faire de victimes civiles. Si le pont tient toujours, cette opération montre à la Russie et aux alliés de l'Ukraine que Kiev, même après plus de 3 ans d'agression russe totale et en étant sous énorme pression le long de la ligne de front, peut toujours faire preuve d'initiative sur le terrain militaire. Emmanuel Chaz, Kiev RFI.
Geert Wilders provoque la chute du gouvernement aux Pays-Bas. Le dirigeant d'extrême droite a estimé que le gouvernement prenait trop de temps pour mettre en place la nouvelle politique d'immigration voulue par la coalition, la plus stricte jamais vue aux Pays-Bas. Il retire donc son parti, le PVV, de cette coalition, le Parti pour la Liberté qui avait remporté les élections de novembre 2023 et qui est toujours en première position dans les sondages. Le Premier ministre Dick Schoof a jugé la décision de Geert Wilders irresponsable. L'Organisation de coopération et de développement économique l'affirme, la guerre commerciale lancée par Donald Trump va fortement fragiliser la croissance dans le monde et en particulier aux États-Unis. Selon son dernier rapport, c'est le climat d'incertitude provoqué par la hausse record des taxes qui affecte la croissance de quasiment toutes les économies du monde. Agnieszka Kumor.
L'OCDE prévoit la progression du produit intérieur brut mondial de 2,9% en 2025, soit 0,2% en moins comparé aux précédentes estimations. Ce ralentissement touche plus particulièrement les États-Unis avec une croissance du PIB américain d'à peine 1,6% cette année contre 2,2% attendu. À peine revenu au pouvoir en janvier, le locataire de la Maison Blanche a lancé la hausse généralisée des taxes sur les biens entrant aux États-Unis. Cela a créé un climat d'incertitude, note l'OCDE. Si fin 2024, l'activité avait pu profiter de cet effet trempe, les entreprises souhaitant reconstituer leur stock avant que le couperet des taxes ne tombe, la situation s'est dégradée ensuite. Le commerce, la consommation ainsi que l'investissement sont à présent touchés de plein fouet. Le taux effectif des droits de douanes américains est passé en mai de 2% à plus de 15%, soit le niveau le plus élevé depuis 1938.
Bilan à la hausse au Nigeria. Plus de 200 personnes sont mortes dans les inondations de la semaine dernière. Chiffre donné par les autorités locales, des centaines de personnes sont toujours portées disparues. C'est la ville de Mokwa, dans l'ouest du pays, qui a été la plus touchée. Un de ses quartiers a été rayé de la carte en quelques heures par les crues du fleuve Niger. Le phénomène est aggravé par le changement climatique, mais aussi par le mauvais entretien des infrastructures qui doivent normalement permettre l'évacuation des eaux de crue. Selon l'ONU, 4 millions de personnes ont fui le Soudan depuis le début de la guerre en 2023. Depuis la fin du mois d'avril, les assauts des paramilitaires sur des camps de réfugiés d'El Fasher, la capitale provinciale du Darfour. De plus en plus de réfugiés traversent la frontière pour se rendre au Tchad, 1400 personnes par jour. En France, le parquet national antiterroriste reprend l'enquête sur le meurtre raciste d'Hichem Mirawi, un Tunisien dans le sud de la France. Et c'est une première, puisque jusqu'ici ce parquet spécialisé n'avait traité que des projets d'attentats liés à l'ultra-droite et les autres meurtres qui, selon lui, relevaient du droit commun, étaient laissés à des parquets locaux. Mais selon une source proche du dossier, le suspect pourrait avoir commis le meurtre de samedi avec une volonté de troubler l'ordre public par la terreur. Un écrivain qui cherche le calme a l'idée d'embaucher un imitateur pour répondre à sa place aux appels téléphoniques, y compris ceux de ses proches. C'est le point de départ du film Le Répondeur, une comédie qui sort demain mercredi dans les salles françaises et qui a déjà remporté le prix du public au Festival de l'Alpe d'Huez. Le comédien Salif Cissé y tient le premier rôle, celui de l'artiste de stand-up, qui finira par improviser à la place d'un autre. Un premier grand rôle pour ce jeune comédien que rien ne prédestinait à ce métier, lui qui est né dans un foyer d'origine africaine et qui a grandi dans la cité des 4000 à La Courneuve. Sophie Torlotin.
Moi, on n'est pas venu me chercher dans la rue, on n'est pas venu me repérer dans un square, donc j'ai dû faire mon parcours.
Un parcours à la fois classique pour tout aspirant comédien, mais exceptionnel pour un enfant des cités. Né d'une mère sénégalaise et d'un père malien, Salif Cissé se découvre une passion pour le théâtre au lycée.
Moi, j'ai fait l'option théâtre et on m'a conseillé très fortement de faire des conservatoires d'arrondissement. C'est la première fois que je me retrouvais face à une communauté de gens qui viennent de même origine sociale, du coup qui ont des codes que je n'avais pas, donc j'ai mis du temps à m'adapter. J'étais assis sur les bancs de l'école avec des gens qui sortaient de l'école alsacienne de Stanislas. Et tu te dis, c'est beau, ça fait plaisir.
En 2019, encore élève du Conservatoire National d'Art Dramatique, Salif Cissé obtient un rôle principal dans le film « À l'abordage », sélectionné à la Berlinale. Dans « Le répondeur », l'acteur de 30 ans décroche le premier rôle en interprétant le double vocal d'un écrivain fatigué d'être dérangé par les appels de ses proches.
Oui, Baptiste.
J'ai votre ex-femme en ligne. Et...
Noyez le poisson.
Salif Cissé s'est posé la question des origines de son personnage.
On parlait de cette question avec Fabienne Godet, la réalisatrice du film. Et en fait, pour elle, c'était pas une question. La couleur de ma peau, ça n'a pas joué.
Cela ne joue pas non plus dans deux nouveaux films, Météor et Love Me Tender, à l'affiche ces prochains mois.
Sophie Torlotin, RFI, 22h10 à Paris, 20h10 en temps universel. Vous pouvez réécouter ce journal, vous le savez, sur notre site www.rfi.fr ou sur l'appli Pure Radio de RFI.